Une bonne nouvelle d'après Matthieu, lecture suivie de l'évangile de Saint Matthieu dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Après cette grande théorie pratique, on dirait cette théorie spéculativo-pratique, parce qu'il y a du spéculatif, il y a de la réflexion, il y a de l'organisation, et chez Jésus qui parle, et chez Matthieu qui organise le texte, et pratique parce que, comme vous l'avez vu, entendu, il s'agit de choses très très terre-à-terre, pragmatiques. Il s'agit de blé, de moissons, de semences, il s'agit de perles, il s'agit de champs. Le symbole n'est jamais abstrait, c'est dans les choses concrètes que se joue la partie du sens. Mais après cet aparté du chapitre 13, nous voici rentrés dans la seconde partie de l'évangile, chapitre 14, et là les affaires vont se corser. Nous commençons par la suppression, par l'élimination, par la liquidation de Baptiste, Jean le cousin, ce qui prélude d'ailleurs à la chasse à l'homme qui va se mettre en route jusqu'au Gethsémani et jusqu'au calvaire.
À cette époque, le tétrarque, c'est-à-dire le gouverneur de Galilée, Hérode, descendant d'une famille de fous, d'assassins et de dépravés, parfois géniaux, il faut le reconnaître, Hérode donc entendait parler de plus en plus de Jésus, et il confia à ses proches. C'est Jean le baptiseur qui est revenu du royaume des morts. C'est la seule explication à ses dons exceptionnels. Rappelez-vous en effet que ce roi Hérode avait fait arrêter et jeter en prison le prophète roux qui n'arrêtait pas de lui hurler publiquement sur le passage de sa litière qu'il n'avait pas droit de vivre avec Hériodade, la femme qu'Hérode avait littéralement volée à son frère Philippe. Il aurait voulu le faire définitivement taire, mais il craignait le peuple qui tenait Jean pour un prophète. Une occasion n'avait pas tardé à se présenter. Ce fut lors de son anniversaire. Devant toute la cour rassemblée, la fille d'Hériodiade, Salomé, exécuta une danse de son cru, dont on peut aisément imaginer l'effet sur ce public sous de vin, d'aromates et de chaleur. Excité de plaisir et de désir, Hérode déclara à la cantonade qu'il lui donnerait en récompense tout ce qu'elle voudrait. La perverse Hérodiade ne pouvait laisser passer l'occasion de se prendre Hérode en mot. Elle souffla quelques mots à l'oreille de Salomé, qui, naïveté ou hérédité, demanda à Hérode, « Donne-moi de suite la tête de Jean le baptiseur, sur un plat, » ajouta-t-elle avec la candeur putride d'une âme en décomposition. On crut remarquer la tristesse sur le visage apoplectique du monarque, mais comment échapper à l'obligation d'un serment juré devant ses convives? Et il donna l'ordre d'exécution. Sur le champ, Jean fut décapité dans sa cellule et sa tête apportée sur un plat. On remit le plat à la jeune fille au milieu des premiers éclairs et des premiers bronchements d'un ciel prêt à vomir. Épouvantée, Salomé courut remettre le plat à sa mère, qui, dans un ricanement jaunâtre de hyène assouvie, resta seule dans l'immense salle des fêtes que tout le monde déserta aussitôt. Les disciples de Jean vinrent réclamer son corps pour lui donner une sépulture. Et on envoya quelqu'un annoncer la nouvelle à son cousin, Jésus. Jésus voulut se retirer quelque temps. Il prit une barque et il se fit conduire dans un endroit isolé. Insatiable, la foule se déplaçait sur le rivage en suivant la barque des yeux, si bien qu'elle l'attendait de nouveau là où Jésus débarqua. Jésus en ressentit une émotion physique et se mit à guérir tous les malades qui se présentaient, sans arrêter, toute la journée. Le soir finit quand même par tomber. Les disciples voulurent prendre une initiative. « C'est le désert ici. Il est très tard. Il faudrait renvoyer tous les gens qu'ils aillent dans les villages d'alentour acheter quelque chose à manger. »« Non, non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous n'avez qu'à leur donner à manger vous-même. »« Mais, répondirent-ils, en fouillant la besace commune, nous n'avons en tout et pour tout que 5 pains et 2 poissons. Eh bien, apportez-moi ça ici. » Les disciples se regardèrent dépassés par l'évidence invraisemblable de la situation. Jésus s'était mis au travail. Il était en train d'ordonner aux gens de s'installer dans l'herbe, et les gens de s'asseoir confortablement comme si de rien n'était. Le silence s'établit de lui-même. Tous les yeux étaient braqués sur Jésus avec une confiance sans question. Jésus sourit à ses apôtres, en leur faisant comprendre que tout allait bien se passer. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons dans ses 2 mains ouvertes. Il leva lentement les yeux vers le ciel rouge et mauve, et resta un instant immobile. Puis il bénit le pain, le partagea, le donna aux disciples, et les disciples le distribuèrent à la foule, et chacun mangeait, en redemandait, en passait à ses voisins jusqu'à satiété. Et comme, en plus, il en restait beaucoup, on ramassait le tout qui remplit 12 couffins. Combien était-on sur cette colline ce soir-là? Oh bien, 5000 personnes, sans compter femmes et enfants. Les disciples n'en revenaient pas. Ils restaient immobiles, abasourdis. Mais vite, Jésus les secoua, les obligea à embarquer pour passer de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait les gens. Il faisait nuit maintenant, avec une belle lune, toute ronde, qui se reflétait, impeccable, dans le lac. Les foules se dispersèrent peu à peu. Quant à Jésus, il grimpa rapidement au plus haut de la colline, tout seul, pour prier. La barque était maintenant au milieu du lac. Quelques vagues la secouaient et le vent lui était contraire. Au petit matin, Jésus alla à leur rencontre en marchant sur l'eau. Les disciples n'en pouvaient vraiment plus. C'était trop. L'un murmura, « C'est un fantôme !» La panique s'empara d'eux et ils se mirent à crier d'épouvante. Mais la voix de Jésus retentit, « Courage, c'est moi! N'ayez pas peur !» Pierre lui demanda soudain, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Viens !» Pierre quitta la barque, et en marchant sur l'eau, il avança dans la direction de Jésus. Il y eut un coup de vent, et Pierre eut peur. Alors il commença à couler. « Seigneur, sauve-moi !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Elle n'est pas grande, ta foi. Pourquoi as-tu douté ?» Tous deux remontèrent dans la barque. Le vent tomba, les 12 se jetèrent à genoux. « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» La traversée continua dans le plus grand silence. On accoste à Génézareth. Les gens reconnurent Jésus et avertirent tout le pays d'alentour. Comme partout, on lui présenta tous ceux qui souffraient, et chacun le suppliait de laisser toucher seulement la trace de son vêtement, et tous ceux qui le faisaient étaient guéris.
Trois moments forts nous sont proposés dans cet épisode. Le rappel de l'exécution de Jean-Baptiste, une multiplication des pains, et puis le retour sur la plage avec toutes ces guérisons. Tragique ouverture de la seconde partie de l'évangile de Matthieu, et en même temps déjà toutes les prémices du drame qui se prépare. Le sort du cousin est une prémonition et une annonce du sort de l'autre cousin, de Jésus. Cette multiplication des pains qui nourrit le corps, préfiguration, annonce de ce jeudi saint, de cette Pâque, qui sera fêtée non plus avec un sacrifice humain ni d'animaux, mais avec du pain et du vin. Et puis le salut apporté à tous les corps qui sont là et à tous les esprits, activité de Jésus. Le corps, la nourriture, c'est l'homme entier qu'il faut sauver. C'est l'homme entier dont traitent ces textes. L'homme pervers, l'homme tordu, l'homme malade, l'homme envieux, l'homme jaloux. Hérode et toute sa famille, Hérodiade, Salomé. Le corps de ceux qui écoutent, de ceux qui suivent, de ceux qui ont besoin d'une parole et dont il faut nourrir aussi le corps par un pain spécial, par ce pain qui deviendra le pain du ciel. Et toutes ces personnes malades de l'esprit et du corps, malades de ne pas être aimées, de ne pas être acceptées, de ne pas pouvoir vivre à l'aise avec elles-mêmes et avec les autres. Je crois qu'il y a ici, dans cette ouverture de la seconde partie de l'évangile de Matthieu, le programme que l'Église, que tous les chrétiens, que tous ceux qui suivent Jésus doivent prendre à leur charge, de même que leur maître, leur Seigneur, leur Dieu, l'a fait raconter par ces apôtres ici qu'on appelle les évangélistes. Mais je voudrais ici faire sentir toute cette plasticité du récit. Combien Matthieu ou l'équipe mathéenne qui a écrit ces textes est en même temps une équipe d'artistes, de ceux qui savent, d'un coup, d'un trait, d'une petite allusion, rendre le récit vivant. Cette scène de la multiplication des pains, par exemple, où les apôtres s'aperçoivent tout de suite que c'est pas possible de nourrir tout ce monde-là et qu'on veut vite renvoyer avant que la nuit devienne noire, et cette réponse de Jésus, surprenante, donnez-leur vous-même à manger, mais enfin avec quelle logistique, il n'y avait pas un chariot plein de pain. Donc cette mise en scène et puis ce sourire qui doit leur dire n'ayez crainte, je suis là, et puis Pierre qui tombe dans l'eau et qui doute. Il y a ici des scènes plastiques qui rendent le récit d'autant plus attrayant qu'il est visible, qu'il est représentatif, que l'on peut imaginer la scène avec quelques traits. Génie du texte, génie d'une tradition qui raconte. Nous sommes bien dans ces pays de la Méditerranée, et surtout la Méditerranée orientale, où la théorie marche peu. C'est l'exemple, c'est l'allusion, c'est le conte. Avançons à l'ouverture.
C'était une bonne nouvelle selon Matthieu, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.